16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces stars qui ont connu la gloire mais aussi les déboires. Après Louisa Casati et Sylvia Christel, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une star internationale qui a connu les cimes de la gloire mais aussi, hélas, les abysses de l'addiction.
Ce que vous dites est à la fois tellement beau et tellement vrai, Stéphane. Je tiens à vous féliciter pour ce lancement, même si c'est moi qui l'ai écrit. Oui, certaines stars sont si immenses qu'elles font l'objet d'un véritable culte post-mortem, dont certains malandrins peu scrupuleux tentent de tirer profit.
La photo de Nana Mouskouri qui s'est fait vacciner, ça vous intéresse ?
C'est d'une star !
Elle vit toujours.
C'est d'une star
et elle est en pleine forme.
Presque aussi grande que Nana Mouskouri dont je vous parle cet après-midi, puisque je vous raconte le destin de Whitney Houston, qui, cela dit, c'est pas une blague, a vendu moins d'albums que Nana. Oui. 200 millions pour Whitney, plus de 300 millions pour votre Nana Mouskouri. Confirmant le théorème de Bern selon lequel Nana Mouskouri...
Il n'y a pas mieux.
Qui eût cru aussi que Nana Mouskouri survivrait à Whitney Houston? Pourtant, il faut se rendre à l'évidence, il y a déjà presque 10 ans qu'une des plus grandes voix de la musique américaine nous a quittés. Elle laisse plusieurs tubes, dont celui qu'on a tous chanté un jour, vous, moi, Olivier, David, la grand-mère portugaise de David. Pour le meilleur et bien souvent pour le pire. On l'embrasse. Et la grand-mère de David est loin d'être le pire. Nous en avons eu un effroyable aperçu il y a quelques temps dans l'émission de TF1 4 mariages et une lune de miel, où soudain, comme dans trop de mariages en France, la mariée a cru qu'elle allait émouvoir le marié en lui chantant du Whitney Houston, alors qu'elle allait juste lui faire regretter d'avoir dit oui.
J'aimerais te chanter une chanson qu'on aime tous les deux. Donc c'est I Will Always Love You de Whitney Houston.
On peut dire non finalement ? Whitney Houston, c'est l'histoire tragique d'une artiste qui a eu la chance de naître avec une voix en or, pas comme cette personne qu'on vient d'entendre, mais la malchance de grandir avec un entourage toxique. Car oui, n'en déplaise à David, la vie ce n'est pas que des fun facts, c'est aussi des sad facts. Il n'y a pas que les camions qui font bip bip, David.
Camions.
Non, mon David. Il y a aussi des malédictions comme celle de Whitney Houston. La petite Whitney grandit dans le ghetto de Newark, ballottée de foyer en foyer. Sa mère, Sissy, pas celle que vous affectionnez, Stéphane, et chanteuse de gospel et choriste. Obnubilée par sa carrière, elle laisse à d'autres le soin de s'occuper de sa fille. Son père, un homme d'affaires un peu magouilleur, coureur de jupons, manager du groupe de sa femme dans les années 60. Ses frères aînés, eux, zonent dans le quartier et initient Whitney aux joies simples de la vie, la marelle, les œufs brouillés et bien sûr la drogue. L'un d'eux, Michael, explique « Nous étions si proches, je savais qu'elle goûterait un jour à la marijuana, alors quand elle a eu 16 ans, j'ai préféré prendre l'initiative ». La drogue déjà et des abus, peut-être, elle dira avoir été victime d'agression sexuelle. Son frère Gary confirmera en disant que lui aussi, plusieurs proches désignent même le coupable, la coupable en fait, une femme, Didi Warwick, la sœur de sa tante qui niera toujours en bloc. Avec sa voix hors du commun et une mère choriste, sachant aussi que sa marraine est une certaine Aretha Franklin, Whitney se fait repérer très vite alors qu'elle chante dans un nightclub de Manhattan. Elle a 18 ans et Clive Davis, un puissant patron de label, va la prendre en main, la façonner en lui choisissant ses chansons. Les ventes de ses deux premiers albums n'atteignent des sommets. 7 titres d'affilée sont classés numéro 1. Elle surpasse même le record des Beatles. Comme elle est très famille, trop certainement, dès ses premiers cachets, elle salarie ses deux frères toxicomanes et alcooliques. Le père s'immisce dans ses affaires, puis ses belles-sœurs et plus tard ses beaux-frères qui s'improviseront garde du corps. À 20 ans, toute la famille, et même la famille étendue, vit à ses crochets. Bien sûr, elle gagne des dizaines de millions de dollars, est une star, mais elle n'est pas épargnée par les critiques qui lui reprochent une musique trop fade, loin du gospel. On lui reproche d'avoir oublié ses racines. Son petit surnom sympa, Oreo, comme ce cookie noir fourré de chocolat blanc. Côté cœur, toujours pas de fun fact en vue, David. Oui, Whitney semble avoir connu un moment de sa vie un amour réciproque. Problème, en tout cas aux yeux de sa famille, c'était avec une femme, Robin Crawford, qui a longtemps bossé avec elle et qui était souvent présentée comme sa meilleure amie. Elle était en réalité un peu plus que ça, Stéphane, si vous voyez ce que je veux dire.
La figue et les abricots.
Oui, bref. Sous la pression de sa mère, Whitney renonce à cette relation. Bah oui, elle a raison, maman Houston. Pourquoi rester avec une femme qu'on aime et qui est gentille quand on peut se mettre en couple avec Bobby Brown ? Rappeur déjà en perte de vitesse au milieu des années 90, Bobby Brown est une petite frappe qui jouit d'un casier judiciaire épais, addiction à l'héroïne, tabassage, violence conjugale. Whitney se dit que c'est un bon choix. Ils se marient en 92. Leur fille, Bobby Christina, naît en même temps que le triomphe du film Bodyguard, dont on a déjà parlé ici, et qui permet à Whitney de franchir un nouveau cap de célébrité grâce à la chanson préférée de la grand-mère de David. Mais voilà, Comme Bobby Brown est vraiment un type super, il jalouse le succès de sa femme. Ça commence à s'engueuler. Ensemble, ils vont sombrer. Il faut dire qu'ils font la paire. Lui est alcoolique, elle accro à la cocaïne. La brave Robin Crawford, qui jusqu'alors continuait de veiller un peu sur Whitney en n'étant plus que son amie, jette l'éponge. Whitney et Bobby se retrouvent seuls face à leurs addictions, libres de se défoncer à longueur de journée. Ils se foutent sur la gueule, se réconcilient, entrent dans une secte. Bobby entre et sort de prison, elle de désintox. La productivité artistique de Whitney commence à inquiéter. La maison disque a dépensé 5 millions en 4 ans pour 2 chansons. Hein, pour avoir un élément de comparaison, on ne va pas en dépenser 5 millions aussi pour Stéphane, mais pour 200 émissions. C'est beaucoup plus rentable.
Ah non, oui. Oh, j'aurais adoré.
Une bonne affaire. Le plus sad fact dans tout ça, leur fille, Bobby Christina, est placée auprès d'une tante, mais elle a eu le temps d'apercevoir les engueulades, les pipes à crack et les photos de famille sur lesquelles papa a arraché la tête de maman. Sympa. Le divorce en 2006 ne change rien ou si peu. Whitney lutte avec un coach vocal pour retrouver sa voix perdue. La magie s'est envolée. Sa dernière tournée a viré à la catastrophe. Elle est contrainte d'annuler faute de souffle. La veille des Grammy Awards, où elle devait tenter de chanter, on la voit en soirée titubante, à la recherche de drogue. Quelques heures plus tard, en ce 11 février 2012, ses gardes du corps la retrouveront morte dans la baignoire de sa chambre d'hôtel, victime d'une overdose. Ultime sad fact, David, sa fille Bobby Christina décédera de l'exacte même manière, overdose de coke dans une baignoire à seulement 22 ans. Whitney, elle en avait 48. Alors, amis jeunes, si vous nous écoutez, je vous en supplie, soyez vigilants, surveillez votre consommation d'alcool et surtout, osez dire à un ami, un proche, un collègue qui, à l'évidence, ne se contrôle plus, tu bois trop, lève le pied. Moi, je n'ai pas encore osé le dire à Stéphane et par moments, eh ben, j'ai peur d'avoir à le regretter un jour.
Alors, le programme de demain, où en étais-je? Allez, réservez-moi du rosé avec un peu de figue. Hein?
Mon Dieu, Stéphane, que de déboires en perspective. Je vous le dis, arrêtez de boire.
Je ne bois pas.
Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu. Ah, ça donne envie, hein, la
vie. Ça donne envie, elle est terrible de.
C'est videm.com. Overdose de cocaïne, c'est-à-dire oui, le cœur qui s'emballe.
C'est
l'overdose
de cocaïne. Je ne sais pas pourquoi ils vont tous. Je vous le dis, vous qui avez vécu en Colombie.
Pourquoi ils prennent tous un bain ensuite? C'est ça qui est bizarre.
Oui, c'est, je crois souvent que c'est dans le bain que ça arrive. Oui,
mais c'est pas ça qui les a tués, Stéphane. Oui. C'est la coke avant.
Europe 1, historiquement vôtre.